Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Spotzle, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 127, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je discute avec Antoine Mougel et nous parlerons de son Tour de France randonneur réalisé cet été. Environ 20 jours d'efforts, 24 pour être précis, avec des hauts, des bas et finalement pas tant de bas. Mais surtout, Antoine revient sur ses motivations assez simples qui consistent essentiellement à prendre son vélo et partir sans trop se poser de questions. Nous parlerons également de son goût pour la couture qui le pousse à réaliser ses sacoches lui-même. Un épisode tout en simplicité, donc axé sur le plaisir de rouler, d'aller à la rencontre des autres et d'explorer notre territoire. Parmi les bonnes nouvelles, l'offre de coaching que je propose s'enrichit de petits avantages appréciables, notamment des tarifs préférentiels chez Vélocio Apparel et Olifat. Sans oublier Nolio qui m'offre la possibilité d'utiliser leur plateforme de planification. D'autres marques se joindront à nous dans un futur proche. Les 17, 18 et septembre prochains, je serai à vélo en grand à Jablin dans le 77. J'aurai un stand, donc si vous êtes dans le coin, venez donc boire un coup. Si je récupère un vélo d'ici là, je participerai à l'épreuve chronométrée du dimanche matin, 100 km avec 3 secteurs chrono, l'occasion de rouler comme un dégénéré. Dans la description de l'épisode, vous trouverez le lien pour précommander l'incroyable casquette de Spotzle, livraison autour du 20 septembre. En attendant, je vous laisse avec Antoine Mougel et son Tour de France randonneur. Bonjour Antoine Mougel.
Salut Richard.
Alors initialement, j'avais prévu de te demander qu'est-ce qui t'a pris d'aller faire un Tour de France randonneur, de partir 20 jours en été alors que tu pouvais aisément partir en vacances avec ta copine, profiter des délices de la vie avec elle, plutôt que d'aller t'emmancher dans un Tour de France. Mais en fait, je ne vais pas te la poser tout de suite parce que quand on fouille ton compte Instagram, que je recommande, eh ben on constate que tu portes la même chemise hideuse avec des parts de pastèque. Et donc, j'aimerais savoir si... tu vois, j'aimerais savoir pourquoi tu tiens tellement à cette chemise finalement.
Alors, j'y tiens particulièrement parce que peu de gens ne l'aiment. Et j'ai souvent un look assez hors du commun. J'aime bien faire pas comme les autres. Donc, celle-là est hideuse, mais c'est pas la plus hideuse. Donc, c'est une parmi tant d'autres. C'est un peu... ça fait partie de moi.
D'accord. Et donc, la vraiment plus hideuse, tu les gardes pour les grandes occasions, comme les repas avec les beaux-parents, par exemple?
Ah, par exemple, ça pourrait. Mais non, j'alterne. J'alterne. Les beaux-parents, je leur laisse quand même l'honneur de ne pas avoir les belles chemises à table.
Ouais.
je suis déjà assez chiant à supporter comme ça, je vais éviter d'en rajouter.
Bon, en tout cas, en plus de la chemise, bravo pour la décoration au cordeau. Hein, les deux pots de fleurs derrière toi et la photo, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est très assurance maladie comme décoration. Donc,
j'ai repeint le mur en plus pour être assorti exprès ce matin. Un peu de boulot, mais on essaye de faire les choses bien.
Tant de détails en 1 minute 50, je suis tout chamboulé. Bon, alors du coup, j'en reviens à ma question initiale. Tu es jeune, tu es beau, tu es fou. Pourquoi partir 20 jours sur un Tour de France randonneur?
Pourquoi pas, je pourrais répondre, mais c'est un peu bête comme question.
C'est un début de réponse, cela dit.
Ouais, c'est un début de réponse. Je fais partie de ces gens qui ont besoin d'objectifs dans la vie, de faire les choses avec passion. Donc souvent, c'est dans le sport. J'ai fait plusieurs sports et j'ai toujours eu envie de faire un Tour de France. Pas forcément randonneur, ça faisait 3 ans que je me disais faut que je fasse un Tour de France. Et j'ai découvert par la suite le Tour de France qui prenait un peu une trace ou des étapes similaires à ce que j'avais envie de faire. Donc, je me suis dit, je vais faire le Tour de France randonneur. Après, c'est tombé cette année parce que je me suis mis d'accord avec ma copine, on en parlait. C'est un peu elle qui a choisi l'année parce qu'il a fallu que je parte, enfin, que je prenne un mois de vacances tout seul. Tout le monde sait que c'est pas évident. Moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai une vie quand même en dehors de faire du vélo. Et voilà, je suis parti à l'aventure.
Et ton pire souvenir de ces 20 jours, quel est-il? S'il y en a un.
Le pire, ouais, il y en a un. Le pire, c'est la traversée du pont de Normandie pour moi.
Parce que tu savais que tu allais rentrer en Bretagne?
Non, c'est pas ça, mais j'ai fait remonter à l'organisation, mais pour moi, c'est pas du tout adapté au vélo, c'est super dangereux, c'est pas forcément indiqué, donc quand on connaît pas, on regarde juste si le pont est praticable à vélo, on voit qu'il y a une bande cyclable, on dit, allez, feu, c'est parti, on se retrouve avec tes camions qui roulent à 90 ou 110, je crois, qui prennent de l'élan pour passer du vent, s'il y en a le malheur d'avoir le guidon à une main, on s'envole instantanément. Et donc, ça fait partie de mon pire souvenir où, quand j'ai fini de traverser, je suis arrivé sur la piste cyclable, je me suis arrêté faire pipi, j'ai soufflé un bon coup, ah, ça s'est fait. Donc, c'est mon pire souvenir. Mmh. Ça peut paraître étonnant, mais c'est le cas.
Mais c'est le tien et ça t'appartient, donc il n'y a pas de problème. Mais dis-moi, ça veut dire que quand même, ce n'est pas un parcours que tu as fait... Non, mais ça va finir par sortir. Hein. Ça veut dire que tu n'as pas fait ton propre parcours. Tu as pris une trace imposée.
Non.
Qui organise cette petite chose?
Donc, cette petite chose est organisée par l'US Métro, donc un club de la région parisienne. Ça existe depuis 1959 de mémoire. C'est pas une trace imposée, donc il y a 60 points de contrôle qui sont imposés. On est obligé de passer par ces points de contrôle, mais on part d'où on veut, quand on veut et dans le sens qu'on veut. Et c'est une trace donc qui suit à peu près, enfin une trace des checkpoints qui suivent du coup les frontières et les côtes. Donc c'est vraiment un Tour de France.
Donc un vrai Tour de France.
Ouais. Mais après chacun prend la trace qu'il souhaite. Donc ça c'est assez sympa. Et ça fait partie des choses qui m'ont intéressé. Ouais. Mmh.
Les points de contrôle obligatoires, c'est je suppose qu'il n'y a pas quelqu'un qui attend au bord de la route avec sa table de camping. C'est non. Du commerce.
Ouais, c'est du commerce. Bah, quasiment tout, c'est du commerce. Après, il y a 6 villes où on est obligé de poster une carte postale donc, qui nous est donnée à l'avance.
Ouais, donc.
C'est aussi simple qu'un commerce, quoi. Il suffit de poster une carte. Et après, il y a des endroits où c'est des photos. Donc, il faut prendre son vélo en photo avec la plaque de cadre et devant un endroit, c'est des monuments, des panneaux de ville, des choses comme ça.
Ouais, c'est bien contraignant tout ça.
Ouais, oui et non. Parce que moi, la vitesse où je l'ai fait, je faisais aller 3 points de contrôle dans la journée. Ça me permettait de boire un Perrier, citron ou de manger un truc. Je ciblais à chaque fois un commerce pour acheter quelque chose. Quoi. C'était pas non plus. Je courais pas après les tampons dans les commerces. Quoi.
Et au total, ça t'a fait combien de jours d'effort pour combien de kilomètres et combien de dénivelé? Et une moyenne étape quotidienne à combien?
Donc, normalement, eux, ils estiment à peu près 4800 km, mais comme moi, je suis parti de Grenoble, j'ai dû rejoindre la trace, après, je me suis autorisé quelques détours pour voir des choses, donc j'ai fait 4935 km, 54 000 m de dénivelé positif en 24 jours avec 0 jour de récup. Donc, j'avais calculé, je crois que c'est une estimation de 205 de moyenne par jour. Sachant qu'il y a des journées, les plus petites journées, j'ai dû faire 160, 170, et les plus grosses, un bon 250, 260. Quoi. Donc, c'est pas non plus extrême, c'est pas une énorme performance physique, mais c'était absolument pas le but. Donc, voilà, pour les chiffres.
Alors, si c'est pas une performance physique, c'est quoi?
Il y a une certaine performance physique, mais c'était pas ce que
c'est pas
je
un exploit, mais c'est, ouais. Si c'est pas un exploit et que c'est, oui, c'est quoi du coup? Si c'est pas ce que tu recherchais, tu recherchais quoi?
Je recherchais déjà de partir seul parce que j'ai fait beaucoup de choses avec des copains. On a vraiment fait pas mal de choses. J'ai eu beaucoup d'objectifs entre potes, des trucs plus ou moins sympas, plus ou moins débiles. Donc déjà partir seul, partir longtemps, j'étais jamais parti quasiment un mois, surtout à vélo. J'ai fait pas énormément de choses à vélo finalement. Et puis partager, parce que j'ai beaucoup partagé, je partais seul, je pensais que je partagerais pas autant, et la première chose qui ressort pour moi après coup, c'est le partage. Et puis visiter, on visite pas vraiment, mais voir les différents paysages en France. Voilà, après j'avais pas du tout de contraintes de temps, j'avais pas estimé des étapes à l'avance, j'avais 30 jours, donc j'en ai mis 24, voilà, mais j'en aurais mis 27, c'était la même chose, j'en aurais mis 20, c'était la même chose aussi, et j'aurais pu largement rouler plus. Enfin, si je voulais le faire en mettant moins de jours, ce serait faisable. Quoi. C'est pour ça que pour moi, c'est pas une performance physique pure et dure.
C'est un accomplissement ou c'est une étape vers quelque chose de plus difficile dans l'avenir ? Parce que à t'écouter, j'ai l'impression que t'es allé chercher le pain, mais juste que ton pain, t'es allé le chercher à Brest et que pour revenir, t'es passé par Nancy. C'est juste ça.
Ah, j'ai pas acheté énormément de pain, plus des croissants, des pains au chocolat, des flans. Ouais, mais
tu choisis ta viennoiserie, si pain et baguette ou croissant, c'est pas grave.
Hein. Non, quelque chose de plus, je sais pas. J'ai pas d'idée précise. J'avais envie de faire ça, donc c'est une première étape. Après, je ferai sûrement d'autres choses par la suite, mais je suis pas à la recherche de toujours plus forcément. Donc peut-être ça sera complètement différent ce que j'aurais envie de faire, mais en tout cas j'ai différentes périodes dans différents sports. Là je suis pas mal dans le vélo en ce moment et j'y suis bien, donc je vais sûrement faire d'autres choses. Ouais. Après est-ce que ce sera plus, est-ce que ce sera, voilà, j'ai pas de grandes idées pour l'instant.
Et quand tu me parles de des rencontres, c'est les rencontres sur le vélo ou à la descente du vélo? Parce que tu dormais où par exemple?
Alors, moi, j'avais l'envie donc de partir seul et de partir en autonomie, mais assez léger. Donc, je suis parti vraiment en mode bikepacking, ce qui est vraiment peu fait. Donc, c'est jamais fait quasiment par des jeunes, ce parcours, et surtout par des vieux en mode cyclotouriste, des anciens retraités. Donc, moi, je voulais partir seul en autonomie, léger bikepacking. Donc, j'avais de quoi dormir dehors. J'avais un bivy, pas de tente, mais un bivy, un matelas, un duvet. Mais j'avais pris le pari de prendre quelques contacts à l'avance, donc c'est pas des gens que je connaissais, c'est des connaissances de connaissances, des copains de famille qui étaient potentiellement sur le parcours. Et au fur et à mesure, quand je voyais qu'un soir je pouvais tomber à tel endroit, bah il y a cette personne, je vais l'appeler, dormir chez elle. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça. J'ai passé sur les 24 jours, j'ai passé 7 nuits dehors, donc des nuits plus ou moins cocasses, difficiles. Anecdotique, et tout le reste j'ai dormi chez des gens, donc des gens que j'ai rencontrés en route ou des gens dont j'avais pris le contact avant de partir, quasiment que des gens que je connaissais pas, que j'avais jamais vu, donc c'était des super rencontres et j'en garde plein de souvenirs. D'ailleurs j'ai souvent des nouvelles, il y en a beaucoup qui m'ont suivi après que je sois passé chez eux, donc j'ai vraiment partagé quasiment tous les jours. Donc il y a des gens qui m'ont hébergé sur la route, sur le tas, mais d'autres que j'avais pris contact avant. Avec qui j'avais.
Et t'as roulé avec Jeanlin Spriet.
Ouais, j'ai roulé avec Jeanlin. Donc Jeanlin, c'est lui qui m'a contacté et ça m'a fait grandement plaisir. Ouais. Il m'a contacté, donc lui, il a fait ce Tour de France l'année dernière et il savait dans quoi je m'étais lancé. Il avait bien envie de venir passer une journée avec moi. Donc lui, il a pris le train pour me rejoindre. Il a fait l'étape du Nord, donc il connaît super bien. Il m'a fait visiter en même temps ses coins favoris. Bon, à 29 de moyenne pendant 200 bornes, c'est une visite à sa manière. Et il a repris le train le soir à Lille pour rentrer chez lui. Donc ça m'a fait grandement plaisir. C'était vraiment, ouais, ça fait partie des beaux souvenirs et des bons moments de partage.
Au final, ça te fait combien de personnes rencontrées sur la route?
J'ai pas calculé.
T'as pas fait le compte?
Non, j'ai pas fait le compte, mais ça en fait pas mal, hein, parce que bah, du coup, il n'y a que 7 soirs où j'ai rencontré personne déjà. Mmh. Et puis après, j'ai rencontré beaucoup de gens sur le vélo, dans tous les cols où il y a beaucoup de cyclistes, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et puis les gens sont assez curieux du fait qu'on ait une plaque sur le cadre, les gens posent beaucoup de questions. Ah, tu fais quoi? Donc j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens.
Ouais. T'as des anecdotes de la nuit seule, mais est-ce que t'as des anecdotes cocasses chez les gens, comme par exemple quand sur Gallia avec Stéphane le premier soir on a dormi chez Cyril et c'était par erreur, enfin par inadvertance, il s'est rendu compte qu'il avait acheté le vélo de Michel Fourniret. Donc on a bien bien rigolé avec ça. Alors
beau,
du
ça.
Coup Cyril, je te salue bien bas. Parce que c'est un exploit quand même notable. Et est-ce que toi, tu as des moments comme ça, un peu bizarres, à partager.
Non, j'ai pas d'anecdotes super bizarres. Par contre, j'ai eu des gros contrastes d'un soir à l'autre, de modes de vie différents, de gens vraiment différents, et c'est assez drôle. C'est assez drôle en fait de passer d'une maison à l'autre, d'une région à l'autre, parce que les gens sont totalement différents. Donc voilà, mais après j'ai vraiment eu de tout. Enfin, je suis passé du lit, installe-toi le lit électrique, si tu veux lever, dormir les jambes en l'air, les bières elles sont là, la piscine elle est là. une cousine de ma mère, on a appelé ta mère, on sait que t'aimes bien les huîtres, voilà, plateau d'huîtres, le dessert, t'adores la tarte au citron, t'as fait une tarte au citron, j'espère que ça va. Enfin, voilà, j'ai fait de tout, vraiment fait de tout. Après, j'ai pas d'anecdote cocasse particulière qui me vient à l'esprit. Après, des gens plus ou moins sportifs qui te comprennent plus ou moins, ça, c'est assez varié, c'est assez marrant aussi, parfois.
Et parmi les questions les plus bizarres que tu aies pu avoir, au-delà de pourquoi tu pars 20 jours, parce que ça c'est idiot comme question, mais il y a certainement encore plus idiot.
Ouais, plus idiot. Il y a des gens qui avaient par exemple des voisins donc, qui ont dit moi, on héberge quelqu'un, il fait le tour de France à vélo, il fait 200 km par jour, donc c'est une personne qui fait pas de sport, fait 200 km par jour, donc ils se rendent pas de compte. Qui en parle à leur voisin, il fait du vélo et il dit il est parti à 10 jours, c'est impossible. Moi je fais du vélo, il peut pas faire 200 bornes par jour depuis 10 jours. Tu m'appelles quand il arrive, je veux le voir, c'est pas vrai. Des choses comme ça assez drôles. Donc, c'est une personne que j'ai pas vue d'ailleurs, qui n'était pas là, mais ça m'aurait bien fait rire. Mais j'ai eu plusieurs réflexions sur. J'ai senti du doute des gens. Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est pas sérieux?
c'est marrant ça.
Hein. Ouais, c'est assez drôle. Ouais.
Toi qui es un auditeur fidèle, je sais pas si tu te souviens de l'épisode avec Camille Defer. Après la Gravel Trobrez, elle m'avait raconté la même chose que des gens lui faisaient la réflexion le soir. Je sais pas comment tu fais, moi j'en serais pas capable. Et on était tombé d'accord sur le fait que parfois les gens sont quand même bizarres. Parce que puisque eux n'en sont pas capables, ça leur paraît incroyable que quelqu'un d'autre le fasse. Et comme si ça les gênait vraiment que quelqu'un y arrive alors qu'eux en sont incapables. Et encore, qu'ils en sont incapables, ça c'est eux qui le disent. Il y a peu de chances qu'ils en soient réellement incapables, ils en seraient certainement tout à fait capables. Mais ce côté, si moi j'y arrive pas, c'est pas possible.
Ouais,
c'est marrant
ouais.
Ça quand même.
Dans le style, j'ai une bonne anecdote. En plus, c'est un peu en rapport avec le podcast. J'ai dormi à Cherbourg, j'ai été hébergé par Jean-Christophe, donc il se reconnaîtra puisque c'est un fidèle auditeur du podcast, qui m'a contacté via Instagram, donc je suppose via les stories que tu avais repartagé de mon aventure, il a dû tomber là-dessus comme ça, qui était vachement dans ce discours, mais tu fais 200 bornes par jour, mais il comprenait pas du tout. Et donc le soir, je lui dis, c'est facile 200 bornes, moi je te montre, demain tu te lèves avec moi, tu mets ton cuissard, tu fais 100 bornes avec moi, tu rentres chez toi, ça fera 200 bornes. Il dit, non, je peux pas, pour lui c'était pas possible. Donc le matin on se lève, je dis allez hop, saute dans ton cuissard, et on a fait 100 bornes, et après il est rentré chez lui, donc il a fait 210 km je crois, c'était la première fois. Et il m'a envoyé un message le soir, merci, c'était trop bien. Au lendemain il m'a quand même envoyé un message, par contre tu m'expliqueras comment tu fais pour enchaîner le lendemain. Mais ouais, les gens ont du mal à comprendre. Ouais.
Jean-Christophe, j'ai un scoop pour toi, récemment on a appelé un truc qui s'appelle l'entraînement. Et en fait, c'est exactement à ça que ça sert, c'est de pouvoir enchaîner des efforts tous les jours.
Il va aimer, je pense.
Si on roule une fois par mois, effectivement, ça peut paraître un peu difficile. Mais après cette expérience, ce véritable succès d'ailleurs, parce que 210 km pour la première fois, c'est une vraie victoire. Mais la prochaine fois, tu feras 210, le lendemain, tu fais 100, et puis voilà.
Il aimera, je pense. Il est assez taquin en plus, donc je pense qu'il aimera.
Ouais. Alors, Jean-Christophe, écoute bien. Tu m'appelles 06 66 53 46 23. Je déconne pas, c'est mon numéro. Hier, je roulais et j'avais laissé mon mail dans un mail parce que j'avais laissé mon téléphone dans un mail que j'ai envoyé à ceux qui ont précommandé la casquette.
Ouais.
Et je leur ai mis, s'il y a vraiment des questions et tout, vous m'appelez 06 66 53 46 23. Et l'après-midi, je suis parti rouler Et au moment où j'étais en train de me bouffer un faux plat, un petit faux plat montant vent de face, le téléphone sonne. Salut, c'est Franck, ça va ? Il y avait mon téléphone, alors il m'a appelé. Donc, voilà. Jean-Christophe de Cherbourg, le pauvre, Cherbourg. À chaque fois que je regarde la météo, tu sais, il peut faire beau partout, mais tu as un nuage où la température est négative, c'est à Cherbourg à chaque fois. C'est incroyable. Je ne comprends pas pourquoi les gens s'acharnent à vivre là-bas. Mais bon, ça, Jean-Christophe, tu m'appelles, tu m'expliqueras. Voilà, fin de la parenthèse. Donc, parmi les réflexions les plus émouvantes que tu aies pu avoir.
Émouvante.
Le genre de truc où tu t'es dit, tiens, je sais pour... Parmi d'autres raisons, je sais pourquoi je fais ça.
Alors, ce qui m'a beaucoup ému, c'est que quand j'allais dormir chez des gens, on m'a beaucoup remercié quasiment tous les jours. En fait, je débarquais chez des gens sales avec ma chemise hideuse. Les gens me faisaient ma lessive, me faisaient à manger. Je me lavais, je mangeais leur repas pour trois personnes, puisque c'était vraiment le cas. Et le lendemain matin, je repartais tout propre et tout le monde me remerciait. Ah, merci d'être arrêté. C'était un échange vraiment sympa. Et ça m'a vraiment ému parce que les gens, ça fait bizarre déjà. Moi, je me disais, mais pourquoi on me remercie ? Je viens squatter chez tout le monde dégueulasse.
Je salis ton canapé.
Et je repars avec des merci. Donc, c'est le truc qui est vraiment émouvant. On m'a dit merci. On m'a beaucoup dit merci pour mon sourire aussi, parce qu'à priori, je souris tout le temps. On m'a dit, oh, ça a l'air facile en fait. Tu souris tout le temps. Tu as l'air content. Je dis, bah oui, je suis content. On peut sourire même si c'est pas facile.
C'est pas en faisant la gueule que ça va rendre la chose plus facile.
Ouais, clair, ouais. Je suis d'accord. Ouais. Bah, ça m'arrive, hein, mais.
Oui, bah ça, on va en parler tout à l'heure, parce que je suppose que tout n'a pas été rose.
Ouais. Principalement rose quand même, mais, mais pas que.
Et tu as eu un gros contraste, justement, entre ces moments roses et ces moments qui étaient un petit peu plus, un petit peu plus moins roses ?
Ouais, il y en a eu quelques-uns. Bah, le pont de Normandie, par exemple, avant d'arriver au pont de Normandie, tout allait bien. Je me suis vraiment éclaté la journée. Je m'arrêtais au Havre, donc j'avais juste le pont à traverser. Je me dis, allez, je me fais une petite pause avant. Je me bois un Perrier, là. Tout allait bien. Et j'ai débarqué dans le pont de Normandie. C'était l'enfer, quoi. Je suis passé.
Non, mais ça dure combien de temps?
Ouais, ça dure pas longtemps, mais surtout qu'après j'étais arrivé, hein, donc c'était pas.
Ouais, t'as juste eu un petit peu les miquettes en fait.
Mais c'est un bon contraste. Après, j'ai eu des contrastes plus longs d'une journée à l'autre, ouais. Une journée où tout va bien, une journée où c'est vraiment difficile, ou alors une journée où tu dors dans un lit électrique, comme je disais, et puis le lendemain tu dors dans un cimetière, tu vois, c'est quand même assez contrasté.
Et tu préfères quoi ? Le lit électrique avec les bières à côté ou dormir au calme dans un cimetière ?
Ça dépend le point de vue, hein. Ça dépend le point de vue. Les deux sont intéressants, hein, par contre.
À quel niveau ?
La bière et le lit électrique pour récupérer, c'est plutôt intéressant. Ouais. Et le cimetière, c'est plutôt intéressant pour profiter après d'un lit électrique et d'une bière. C'est quand même... c'est intéressant.
C'est calme, en plus. Quand tu veux te reposer, si tu es un peu cramé, tu n'as pas à faire la conversation dans un cimetière. C'est quand même... Pour ça, c'est vraiment pratique.
Ouais. C'est moins pratique pour pisser un coup, par contre, dans la nuit, parce que j'ai eu un peu de respect. J'ai évité de sortir en caleçon de ma petite cabane et de pisser entre deux tombes. Donc, j'ai traversé...
Ah oui, quand même.
Il y a la route qui passe au-dessus. J'ai traversé en caleçon le cimetière. Je me suis dit, s'il y a des voitures qui passent...
Par souci de respect, t'as pissé depuis un pont, comme ça t'as arrosé les voitures. Ouais, super. J'adore ta notion de respect, ça me plaît énormément.
Ouais. Mais les deux sont différents et vachement contrastés, mais c'est intéressant. Enfin, on vit presque une vie en trois semaines. On passe de coq à l'âne et ça, c'est vraiment cool.
Bon, est-ce que tu peux être un petit peu plus précis ? Parce que quand on voit les récits que j'écoute ou qu'on me raconte, que je lis ou que j'entends, ce qui revient souvent, comme tu viens de le dire, si on vit beaucoup de choses, les émotions sont très fortes, toi tu viens de dire on vit, c'est une petite vie condensée en trois semaines, mais est-ce que tu peux être plus précis, parce que, comme tu le sais, j'aime pas les expressions vagues, j'aime bien les choses précises, donc est-ce que tu peux être plus précis et me donner des exemples concrets, par exemple de situations, de jours, de moments où tu t'es... Ou vraiment, c'est un petit moment de vie, c'est un petit condensé.
Ouais, en fait, ce qui fait qu'on a l'impression de vivre une vie, enfin, d'utiliser cette expression parce que c'est pas vrai, mais c'est ce contraste, on parlait de ce contraste, donc c'est vraiment varié, donc tu passes du moment, Enfin, c'est bête, hein, mais donc je disais, du moment où tu dors dans un cimetière et le lendemain tu dors dans un bon lit, un jour il fait super beau, t'as chaud, le lendemain t'es trempé jusqu'aux os, un autre jour physiquement ça va, le lendemain ça va pas, un jour tu te sens seul, un jour t'as l'impression d'être entouré comme jamais t'as été entouré, c'est tous ces moments de contraste, quoi.
Après, veux dire que les moments sont plus intenses que dans la vie de tous les jours?
Ouais,
être seul prend plus d'importance, être accompagné prend plus d'importance, avoir mal aux jambes prend plus d'ampleur que dans la vie de tous les jours.
Ouais, en fait, à la fois on n'a rien à faire dans le sens où il faut juste pédaler et avancer, mais à la fois le moindre truc devient important. Par exemple, j'ai perdu ma carte bleue, c'était quand même assez important parce que je me retrouve donc j'étais au Sable d'Olonne par là-bas sans rien. Tout a une importance, alors qu'on n'a rien à faire, parce qu'il faut juste avancer. Enfin, j'étais tout seul, je dépendais de personne, j'avais juste à pédaler, avancer.
Et le coup de la carte bleue, tu l'as réglé comment?
Beaucoup. Donc j'étais un peu avant les Sables d'Olonne. Je suis arrivé mort de faim dans une boulangerie. D'ailleurs, j'aurais bien aimé retenir la ville pour leur passer le bonjour, mais je suis arrivé dans une boulangerie et j'ai voulu payer, donc j'avais pris 3 sandwichs. Et j'avais pas de sous, puisque j'avais perdu ma carte bleue, je m'en suis rendu compte. Je suis allé jusqu'au Sable d'Olonne trouver un crédit agricole, je suis au crédit agricole, pour essayer de trouver une solution. Donc, a priori, quand on a perdu une carte bleue, eh ben, y a aucun moyen, même, donc j'avais un RIB sur moi et ma carte d'identité, aucun moyen de retirer de l'argent. C'était pas possible, il fallait attendre 48 heures. Donc la dame, elle m'a dit, vous faites une demande, vous revenez dans 48 heures. Enfin, vous avez pas compris, en fait. 48 heures, j'avais 4 euros. Je dis, je vais rester ici. Par contre, si je dois rester 48 heures. Le seul truc cool que j'avais, c'est d'avoir un chèque. J'avais un chèque. J'ai échangé ce chèque-là contre de l'argent. Et après, j'avais plus rien d'autre. Donc, toujours avoir deux moyens de paiement. C'est une des bonnes leçons que j'ai eues.
Apple Pay, mon lapin, sur ton téléphone.
Ouais, j'y ai pensé.
Si on est en iPhone, d'avoir sa carte et Apple Pay, ouais, ça peut sauver les miches.
J'ai pas un iPhone, mais après, il y a des solutions.
T'es un vrai aventurier, toi, alors?
Ah, moi, j'aime bien prise de risque.
Ouais.
Mais
en chambre à air.
Ouais, bah, c'est une de mes prises de risque. Mais j'ai roulé en chambre à air et ça va peut-être pas te plaire, mais j'ai pas crevé une fois.
Je m'en fiche, moi.
J'ai pas crevé une fois. Donc tu peux me dire.
Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez jouer au con, faites comme vous voulez. Hein, mais.
Zéro crevaison.
Pas, moi. Zéro crevaison.
4935 km, zéro crevaison. Regonfler deux fois mes pneus pour le luxe et c'est tout.
Avec les mêmes pneus.
Avec les mêmes pneus. Ils ont fait le tour. D'ailleurs, je vais encore rouler cette semaine avec. Mais ils sont sur la fin quand même.
Ouais, là, t'es sur la jante hein, quand même.
Non, je suis pas sur la jante, mais je suis sur la fin, ouais.
Non, j'allais dire une grosse connerie, mais là, je peux pas. Non,
tu peux pas. Tu me la diras plus tard.
Ouais, je te la dirai après, mais là, je me suis promis d'être sérieux maintenant pendant les épisodes, donc, je suis désolé, je peux pas.
Donc, pas tu blesses.
Mais c'est pas grave, écoute, c'est pas grave du tout. Chacun fait comme il le sent, et moi, je respecte toutes les opinions, même les plus absurdes.
J'adore.
Venons-en un petit peu à... Parce que là, tu me parles de micro-désagréments. Tu vas pas me raconter de conneries. Tu as traversé 4 km un pont avec un petit peu de vent et des camions. Bon, c'est pénible, mais ça dure 10 minutes. Tu as perdu ta carte, mais on trouve toujours quand même plus ou moins le moyen de se débrouiller. Il n'y a pas eu de gros moments de doute, de gros moments où tu n'avais plus de jambes, de moments où tu avais mal au cul, où tu avais mal partout et tu t'es vraiment demandé si tu allais aller au bout? Il n'y a pas eu de moment de doute, pas de moment difficile où tout s'est passé les doigts dans le nez?
Il n'y a aucun moment où je me suis dit que je n'irais pas au bout, ça c'est certain. Je me suis pas posé de questions, mais ça allait très bien. Après, j'ai eu un gros moment physiquement, j'ai eu un gros moment vers Strasbourg, où un matin, j'ai dormi sur la piste cyclable un peu avant Strasbourg, où je me suis réveillé, donc j'ai toujours pas l'explication, mais je me suis réveillé avec les deux genoux raides comme jamais. J'avais 60 km de piste cyclable et j'arrivais même pas à passer le gros plateau sur la piste cyclable, donc sur le plat, tout petit plateau. Et c'est revenu gentiment, mais physiquement, c'est la journée la plus difficile. Donc, j'allais chez mes grands-parents à la Bresse. Heureusement, alors c'est peut-être lié, mais c'était la journée la plus courte. Donc, est-ce que le corps s'est dit, demain, on est chez mamie, on se laisse aller. Mais vraiment assez fou, ça ne me l'avait jamais fait comme ça. Bon, c'est l'enchaînement des jours, forcément, le paye à un moment. Mais...
Donc ça, c'était à la fin, ça?
Ouais, c'était à 3 jours. Il me restait 3 jours après. Enfin, j'ai fait 3 jours, je ne savais pas combien il m'en restait sur le moment, mais j'ai fait encore 3 jours après, ouais. Mais après, ça allait mieux, c'est juste vraiment cette journée-là. Et le soir, je me suis mis à table pour boire un coup, je me suis levé, j'ai senti que j'avais du mal à marcher. Où on se dit, comment ça va être demain? Et le lendemain, c'était mieux. Ça, c'est vraiment cool.
Est-ce que tu as... Oui.
Vas-y.
Est-ce que tu as été surpris quand même par les réactions de ton corps et la capacité d'adaptation de ton corps? Parce que on avait déjà parlé avant ton départ. Je sais que tu es un bon rouleur, tu as fait des trucs, tu t'es préparé à peu près bien, mais tu n'as pas non plus fait des blocs d'entraînement monstrueux. Tu t'es pas mis des grosses quiches d'entraînement et tu es parti sur un 24 jours assez intense. Sans non plus être préparé optimum. Tu ne préparais pas les Jeux Olympiques. Est-ce que tu as été surpris par les capacités de ton corps?
Ouais, complètement. Bah, la préparation, j'ai vraiment juste roulé. Je n'ai pas fait du tout de spécifique. J'ai roulé, quoi. J'ai fait 8000 km les 4 mois avant de partir, en gros. C'est ma préparation. Mais de tout et n'importe quoi. Hein, d'aller boire des bières en vélo avec les copains. Enfin, voilà. Pas de spécifique du tout. J'ai fait beaucoup de grosses sorties quand même, et assez surpris de l'enchaînement des journées. Je savais pas trop comment ça allait se passer. Vraiment surpris et content. Ouais. En fait, y a un moment où on arrive, on se met dans un mode, on fait des bornes, mais ça bouge plus et le corps il s'habitue vraiment. Les deux premiers jours, j'ai fait 200 km et 4600 mètres de dénivelé par jour. Donc j'avais fait quasiment 9000, quasiment 10000 mètres en 2 jours. Et ce qui est quand même, c'est pas des choses que rien que ça, je l'avais jamais fait. Hein. Pour moi,
4006, ça commence à causer un
ça
peu.
Aurait, pour moi, juste ces deux journées-là, j'ai fait Grenoble-Monaco en 2 jours. Quoi. Pour moi, ça aurait été déjà un une grosse sortie, un gros week-end, enfin presque un objectif. Et au final, derrière, j'ai assez bien récupéré. Ça s'est vraiment bien passé. Les Pyrénées, pareil, j'ai fait 12 000 ou 13 000 mètres en 3 jours et j'étais vraiment étonné de la récupération. Quoi. En fait, tout en avançant, on récupère et il n'y a pas. De gros doutes physiquement, mais je suis étonné. Ouais. Je pensais que ce serait plus dur physiquement.
Ça te faisait des journées de combien à peu près en temps?
En temps, je partais le matin quand j'étais en bivouac. Je partais un peu plus tôt parce que je préférais, mais lever du soleil, je partais vers 7 heures, je roulais vers 7 heures et puis j'arrivais le soir vers 19 heures. Mais ça faisait des journées de 12 heures. Mais des fois, je m'arrêtais 1 heure pour manger, des fois, je m'arrêtais pas. Des fois, puis je roulais assez tranquille, mais j'ai quasiment jamais roulé la nuit, donc tu vois, ça fait pas des journées immenses. Quoi.
Ouais, donc t'as vraiment géré ton effort au plus relax pour faire ton kilométrage, mais sans non plus te mettre une idée en tête de vitesse ou de je dois mettre tant de jours. Comme tu me disais tout à l'heure, tu as mis 24 jours. Si ça avait été 27, c'était 27 et c'était cool.
Ouais, exactement. Ouais, c'était vraiment ça. Et puis, j'ai adapté en fonction de mes ressentis. Je n'avais pas prévu d'étape à l'avance exprès pour pouvoir gérer et être libre, avancer plus si ça va, avancer moins si ça ne va pas. Et j'ai vraiment géré comme ça et j'ai plutôt bien géré. Ouais. Par exemple, après la traversée des Pyrénées, j'ai fait les 3 jours d'après, j'ai roulé tranquille. Dans le but de bien récupérer de ma traversée des Pyrénées. Et c'est des choses qui ont bien payé et qui m'ont permis de ne pas prendre de journée de récup. Donc, ça c'est bien.
Donc, c'est-à-dire, tu as roulé un petit peu moins en kilométrage?
Ouais, j'ai roulé moins en kilométrage et un peu moins en intensité, tu vois. Je suis passé de faire 200 km dans les Pyrénées à faire 200 km en Vendée où c'est tout plat, tu vois, où j'ai roulé tranquille. Il y a un midi où je me suis arrêté pour voir une copine, j'ai fait 3 heures de pause, tu vois, le midi. Et puis, il y a une autre journée où j'ai fait vraiment une journée courte. J'ai dû faire 170 km tout plat. Mais vraiment dans le but de bien récupérer des Pyrénées pour bien repartir. Quoi. Parce que tout le monde m'a beaucoup dit « Ouais, tu devrais prendre une journée de récup et tout. On trouve que t'as vachement avancé. » Je dis « Ah, mais le but, c'est pas… » Tant que ça va, j'avance. Après, j'adapte les journées. Et c'était vraiment bien. Et ça permet de vivre le truc à fond sans forcément s'arrêter… Bonne stratégie pour moi.
Ok. Si on parlait un petit peu de ton vélo, parce que là, on s'est longtemps épanché sur ta chemise. Et heureusement, ton vélo est joli, lui.
Lui.
Ouais. Tu m'as dit que tu voulais partir vraiment ultra light. Ça se traduit comment, ultra light?
Alors, ultra, je dirais light parce qu'on peut toujours faire plus léger. C'est pas vraiment ultra light pour moi, mais mon vélo, on peut parler de marque. J'ai un Canyon Endurace Carbone, pas des plus récents, pas le meilleur vélo de la Terre, mais un vélo qui me convient bien, avec lequel j'ai fait plein de choses et qui est testé, approuvé par moi. Après, au niveau matériel, donc j'avais à l'arrière une sacoche de 10 litres avec mon couchage, donc couchage simple, hein, duvet, matelas et bivy. Le duvet, il a rendu l'âme de une ou deux nuits, donc j'ai rapidement fait 100. Très intéressant également. Et après, j'avais un dry bag de 8 litres à l'avant avec des fringues assez simples. Donc, j'avais ma chemise sur moi avec un cuissard, j'ai pris un seul cuissard, et une tenue de change pour le soir, short, t-shirt, vraiment cool. Donc, parfois, j'ai roulé sans cuissard, j'ai assez l'habitude, donc j'ai fait des journées sans pour laver mon cuissard. Et après, une tenue de pluie, ma doudoune, gants, bonnet, vraiment classique, mais juste ce qu'il fallait. Tout testé, approuvé, c'est un peu le même matos que j'utiliserais pour aller en montagne. Tu vois, c'est pas forcément. Enfin, d'ailleurs, c'est pas du tout du matos de vélo, tout ce que j'ai. Rien du tout, du bonnet aux gants, à la veste, au pantalon, c'est tout des trucs de montagne. Et après, une sacoche de cadre dans laquelle j'avais le reste, une batterie, des câbles, une trousse de secours, mais assez classique. Et donc, c'est toutes des sacoches, à part la sacoche arrière, c'est toutes des sacoches que j'ai fait moi. J'aime bien faire la couture un peu.
Donc, mais voilà. Parle plus fort là, et tu peux le dire sans honte.
J'aime bien faire de la couture.
Voilà, très bien, écoute.
On me pose pas mal de questions parce que ça étonne souvent les gens aussi de voir un mec jeune faire de la couture, c'est un peu le truc. Ah, pourquoi non, tu mais
j'en connais, d'autres. Hein. Tiens, j'en profite pour passer le bonjour à Vincent à Annecy. Lui aussi, il aime coudre.
Ah, il est pas loin en plus, Vincent. Faut que j'aille le voir alors.
Ouais, va le voir de ma part.
ouais, non, mais j'aime.
Tu ferais une petite pichenette derrière l'oreille, tu sais, ou pas comme ça sur une burne.
Ok. Bien sec.
Que ça claque.
Ok, on fera ça. Non, mais ouais, j'aime bien la couture et puis j'aime bien aussi faire des essais, tester le matos, adapter des choses et pas forcément regarder, si s'inspirer de ce qui se fait dans le commerce, mais aussi s'inspirer de moi je verrais plus un élastique là que là, j'essaierais bien de faire ça. Donc j'ai pas mal peaufiné des trucs et au final on se rend compte que ça fait vraiment le taf, que c'est solide, parce que la sacoche. Que j'ai sous le top tube là, donc à partir d'une veste North Face, je l'avais fait, ça doit faire plus de 2 ans qu'elle est sur mon vélo, elle a pas bougé quoi. Donc c'est un matos qui va bien et qui est adapté et qui est léger d'ailleurs, qui est beaucoup plus léger que la plupart des trucs qui existent dans le commerce. Donc j'ai toujours roulé avec ça sur mon vélo, donc je suis parti avec des choses que j'ai fait moi, mais surtout que je connais et que j'avais pas de surprise quoi.
Bon, on va enfoncer une porte ouverte, mais est-ce que c'est important de partir avec du matos que l'on connaît ?
Ouais.
Ça fait pas de mal de le rappeler quand même si c'est une porte largement ouverte et que c'est battu et rebattu à maintes reprises. Est-ce que tu peux revenir sur ce concept de connaître et maîtriser son équipement ?
Ouais, pour moi, c'est pas important, c'est indispensable. C'est vraiment le truc. C'est d'ailleurs un des premiers trucs pour rouler longtemps ou faire quelque chose longtemps, pas forcément du vélo d'ailleurs. Ce qui est important, c'est de connaître son matos, c'est de pas avoir de questions à se poser sur le matériel. Moi, je roule tout le temps avec les mêmes choses, que j'aille au boulot faire 6 bornes ou que j'aille faire le Tour de France, j'ai quasiment les mêmes choses. Après, je pars pas avec mon couchage, mais je sors de chez moi, s'il pleut, je mets cette veste là, si j'ai froid, je mets ma doudoune là, je me pose pas de questions, c'est rangé toujours au même endroit. Et c'est valable pour tout. Le vélo, c'est la même chose. Hein. Chambre à air, je sais que je suis en chambre à air. Je sais où aller ranger si je dois changer. Je me pose pas de questions. Tout est comme ça. Ma selle, je la connais. Je sais qu'a priori, j'aurai pas de problème. Si j'en ai, je trouve des solutions avec une crème que je connais. C'est tout est. Le but, c'est d'avoir de moins de questions parce qu'on en a forcément, mais moins de questions à se poser pour. Gérer au mieux l'imprévu, même si l'imprévu reste imprévisible, comme son nom l'indique. Mais ouais, c'est vachement important de connaître le matos, ça c'est clair. Voilà.
Avant de te poser la question suivante, il faut que je fasse une petite parenthèse pour saluer Camille. Voilà, c'est fait. Bonjour Camille. Puisque tu sembles, puisque il est indispensable de bien connaître son matériel, on pourrait se dire, bah oui, mais au bout d'un moment, si tu as toujours le même truc et que tu sais où est ta doudoune, que tu sais où est rangée ta brosse à dents et tout, et que tu utilises toujours la même chose de la même manière, où est la part de découverte et d'expérimentation là-dedans ? À partir de quel moment on peut se dire, tiens, je vais quand même essayer de changer un peu la recette, parce qu'une bonne recette, c'est une recette qui fonctionne, mais peut-être qu'on pourrait faire mieux et on peut toujours faire mieux. Donc à partir de quel moment on peut se dire, tiens, sur ce point de détail ou sur ces trucs-là, je vais expérimenter autre chose avec une marge de manœuvre, finalement, une possibilité d'échec cuisant parfois important.
Je parle pour moi puisque je vais pas parler pour les autres, je peux pas, mais moi j'utilise des trucs que je connais. Par contre, je reste vachement ouvert sur ce qui se passe et comment je réagis, ou voilà, j'ai une veste, j'ai roulé une journée sous la pluie, je suis trempé, est-ce que je peux trouver mieux, qu'est-ce qui est faisable. J'ai fait 650 bornes avec un copain, on a fait Grenoble Marseille Grenoble, je suis revenu pendant un an, d'ailleurs j'ai des fourmis dans deux doigts. Pourquoi j'ai des fourmis dans deux doigts? Est-ce que les prolongateurs c'est la bonne solution? Est-ce que c'est pas la bonne solution? Est-ce que je mets des gants? Rester un peu ouvert, regarder un peu ce qui se fait. Moi je suis assez curieux, je fouille pas mal, même quand j'ai des pubs de matos, de sacoches, je regarde souvent. D'ailleurs je connais pas mal de marques de sacoches alors que j'en ai jamais acheté quasiment. Mais parce que je regarde ce qui se fait et je m'en inspire, et puis quand il y a un problème ou qu'il y a un truc qui est améliorable, j'essaie de l'améliorer. C'est pas toujours le cas, mais oui, donc faut connaître son matos, mais être ouvert sur ce qui existe autour et pas dire je mets ma doudoune, c'est la meilleure de la terre, il y a pas mieux sur terre.
Et ton problème de doigt, alors il est résolu comment? Parce que c'est souvent un truc qu'on entend sur les longues distances, c'est que la pince notamment s'anesthésie après quelques jours et il n'y a plus de force.
Ouais. Donc, alors moi, c'est pas la pince, c'est deux doigts extérieurs, là. Quasiment les trois. Donc ça fait un an, depuis juillet l'année dernière, que j'avais fait la boucle à Marseille. Là. Donc j'ai essayé plusieurs choses. Déjà, je ne roulais pas avec des gants, donc je roule avec des gants. Je roule avec des prolongateurs quand je roule longtemps, ici, quand je fais des sorties, non, mais... Et a priori, ça n'a pas empiré. On m'a dit de surveiller que ça empire pas, parce que si ça continue d'empirer, en fait, c'est que je continue à appuyer là où il faut pas. Tant que ça n'empire pas, c'est que ça peut revenir un jour, donc ça peut ne pas revenir aussi. Mais donc moi, j'ai fait gants, doubler la guidoline en haut du cintre, pas en bas, et prolongateur.
D'accord.
Et a priori, ça a l'air de fonctionner.
Sur la, que ce soit les problèmes de doigts, alors toi c'est ceux-là, tiens, Star Trek, paix et prospérité, voilà, chez les Vulcains avec les oreilles pointues, ou celui-là, ou comme ça, est-ce que, je reviens sur ta conception des sacoches et ton activité manuelle artisanale, d'ailleurs les deux se ressemblent énormément, est-ce que tu as l'impression qu'il y a justement parfois un petit problème de conception? Et dans le sens où, par exemple, tu vois, on parle de pince, la pince anesthésiée, on n'a plus de force. Et sur les différentes sacoches que j'ai pu avoir, à part les dernières, je constate que pour l'ouvrir, c'est souvent, notamment la sacoche de cadre, un truc qu'on doit tenir et tirer. Or, sur la dernière que j'ai, qui est très très bien, c'est un genre de petit losange dans lequel on peut juste coincer le doigt, tirer comme ça, enfin... plier le doigt et tirer. Donc, on n'a pas de mouvement de serrage comme ça à faire, ce qui veut dire que si on a froid, si on est congelé par le froid ou la pluie, ou qu'on n'a plus de force à cause des heures de sel, eh ben on a juste quand même la possibilité de tirer plutôt que de pincer et tirer. Mmh. Et j'ai quand même vraiment l'impression que parfois, il y a un petit manque de réflexion sur la conception. Et là, c'est vraiment que maintenant que je commence à avoir des sacoches qui me conviennent vraiment, à part la sacoche de guidon qui n'est pas adaptée pour le tout-terrain. Et d'ailleurs, je te demanderai conseil pour pouvoir mettre un truc, soit un velcro, soit une boucle, parce que toi, tu aimes coudre, mais alors moi, en bricolage, laisse tomber. Je suis pas... Ça est parmi d'autres domaines, mais ça fait partie des domaines où je suis extrêmement mauvais, donc j'aurais besoin d'aide. Et voilà, mais sinon sur le reste, je suis vraiment, vraiment satisfait. Et donc toi, ton opinion sur la conception générale des produits bikepacking pour le moment?
Alors, Je suis pas 100%, enfin j'aurais pas un avis 100% fiable parce qu'en fait je regarde beaucoup de matos mais j'en ai pas utilisé tant que ça puisque les seuls trucs que j'utilise c'est des trucs que je fais moi. Je vois ce qui se fait par contre autour de moi puis sur internet. Après je pense surtout qu'on est encore un peu au début et que j'ai l'impression que les marques ont beaucoup, tout le monde copie tout le monde pour sortir, enfin là c'était un peu la course, tout le monde voulait sortir son kit de sacoche, selle, cadre. Avant, et tout le monde a un peu copié tout le monde, et du coup, l'innovation, elle est pas encore vraiment là. On n'est pas encore sur le niveau du trail où on va jusqu'à réfléchir sur la forme des flasques, parce que maintenant, ça existe depuis longtemps, et tout le monde essaye d'un peu d'innover. Là, on est plus dans tout le monde veut sortir ses sacoches. Maintenant que tout le monde a sorti ses sacoches, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, je pense qu'on va aller justement vers ce que tu disais, améliorer. Bah voilà, on n'a pas la pince, c'est difficile quand il fait froid, bah, comment on peut faire pour ouvrir sa sacoche plus facilement. Mais on n'en est pas encore là, ouais, pour l'instant. Enfin, ça
Ouais,
commence,
ça,
quoi.
c'est bête, mais ça se joue sur des détails. Tu vois, les premières que j'avais achetées, c'était, pardon, bah, comme beaucoup, j'ai acheté sur AliExpress des Rhino, machin, Rhino Walk, je crois. Et ça ressemble à une belle sacoche, ça ressemble à des trucs de grosses marques et tout, mais sur la conception, c'est une catastrophe. Tu vois, les velcros hyper larges avec des grosses bandes de plastique ou de tissu mal ajustées, ce qui veut dire que ça tient pas et ça remonte un petit peu, ça rebique, alors tu te prends les genoux dedans. Et
Je
même
vois de quoi
sur des
tu parles.
marques un petit peu plus, entre guillemets, prestigieuses. C'est des remarques que j'ai souvent, enfin c'est des trucs que j'ai souvent constatés, c'est que c'est source de blessures et qu'il y a plein d'endroits où on pourrait se faire de micro-frottements, que ce soit les velcros ou la forme ou même la texture de la sacoche, c'est source de blessures, quoi. Les velcros qui dépassent, l'attache qui part de l'arrière vers l'avant plutôt que de l'avant vers l'arrière, parce que justement si elle est vers l'arrière avec le machin qu'on doit en plus serrer, bah, ça fait un truc qui bouge dans lequel on se prend le genou. Et tout ça, c'est source d'irritation. Et je m'en suis pas rendu compte aussi précisément avant que maintenant, parce que justement, je vois la différence. Les velcros sont fins, ils tiennent super bien. Il y a un système pour faire passer autour du cadre pour que rien ne
Ouais,
dépasse.
c'est ce que je
Les
fais moi
matières
sur les miennes.
sont douces. Et il y a ce petit losange de l'avant vers l'arrière et non pas l'inverse. Et
Ouais,
c'est
en
dingue.
fait, c'est des détails, mais qui sont hyper importants. Ça paraît être des détails, mais au final, voilà, c'est des choses, c'est ce que
J'ai
tu dis.
l'impression que c'est des détails qu'on découvre en roulant. Alors, je ne peux pas dire ça parce que là, ça n'a pas été le cas ces derniers temps. Mais en roulant quand même pas mal, en roulant bah, régulièrement dans des conditions difficiles. Et que, bah, comme par hasard, ces trucs-là, c'est souvent conçu par des gens qui eux-mêmes roulent beaucoup et. Bah, j'en parlerai dans quelques temps, mais en tout cas, ouais, celle que j'ai, je peux expliquer en long, en large et en travers pourquoi la conceptrice met une volée à tout le monde en termes, pas d'exploits sportifs, mais d'accomplissement sur un vélo. Bah, c'est assez flippant, quoi. Donc
Ouais.
forcément, ça se retraduit sur la qualité des produits.
Bah, de toute façon, ouais, il n'y a pas de secret. Quelqu'un qui pratique pas, il a beau être le meilleur designer, fabricant, du monde, s'il côtoie personne qui pratique ou qui pratique pas, enfin, il sortira jamais la meilleure sacoche qui existe, c'est pas possible. C'est avant tout de la pratique et de connaître, voilà, enfin, savoir ce qui est important pour les personnes qui pratiquent, quoi.
Est-ce qu'il y a un truc que tu regrettes d'avoir emmené?
Un truc que je regrette d'avoir emmené, donc j'ai tout sur tout ce que j'avais, j'ai tout utilisé au moins une fois. Il y a une seule chose que j'ai pas utilisée, mais que je regrette pas d'avoir emmené. Donc après, je dirais quelque chose que je regrette peut-être si ça me vient. Mais le seul truc que j'ai pas utilisé, j'avais pris des surmoufles étanches pour mettre au-dessus de mes gants que je n'ai jamais mis. Donc ils ont fait le tour de France, mais je les ai jamais mis. Je regrette pas forcément de les avoir pris parce que ça aurait pu me servir. Voilà, ça c'est les aléas de la météo, donc ça aurait pu me servir, je ne regrette pas de les avoir pris. Une chose que je regrette d'avoir pris, est-ce que j'ai quelque chose qui me viendrait? Ben, sachant que j'ai tout utilisé, non, après il y a des choses que j'aurais pu améliorer peut-être, mais pas de regrets
Comme quoi,
matériels.
par exemple, sur les améliorations?
J'améliorerais, par exemple, j'avais pris une batterie qui était pour moi un peu grosse, j'aurais pu prendre plus petit puisque j'ai jamais vidé. Mais ça, après, c'est pareil, je pouvais pas savoir à
c'est
l'avance.
C'est difficile à jauger, puis t'aurais gagné 150, 120 grammes.
Ouais, ouais,
donc
ouais.
Est-ce que c'est vraiment important?
C'est vrai que c'est pas le plus important. Améliorer. Non, honnêtement, j'aurais pas changé grand-chose. Hein. Il y a rien que je regrette d'avoir pris. Non, même ma chemise, pour te dire. Truc de fou.
Non, mais en fait, je te chambre, mais j'adore.
Elle est un peu provocatrice pour les cyclistes.
Mais non, c'est des paires de pompes pures. Mais non, mais alors ça... Non, mais moi, franchement, j'adore. Et si je pouvais... Enfin, si je l'avais, je la porterais. Si je la trouvais, je pense que je l'achèterais. Parce que j'aime beaucoup, en fait.
Ça me fait plaisir, alors. Ouais. C'est pas le cas de beaucoup de gens qui font du vélo. Hein. J'ai des remarques un peu bizarres, des fois. Mais c'est...
Ah ouais, comme quoi ?
Ouais, j'en ai plusieurs, des anecdotes. Mais avant de... Allez, j'en dis une. Avant de partir, j'ai fait une boucle. Donc, ça s'appelle le brevet du randonneur des Alpes. Donc, c'est un brevet qui est autour de Grenoble, que moi, j'avais fait déjà plusieurs fois, mais que là, j'ai fait solo en partant de Grenoble. Donc, une grosse sortie. Et j'ai rattrapé un groupe de gars. J'avais mes sacoches pour mon Tour de France, donc j'étais chargé. J'avais fait rattraper des gars dans le col de la Croix de Fer. Donc, peut-être, j'espère qu'ils écoutent. D'ailleurs, ça me ferait grandement plaisir si j'avais des nouvelles.
Mais, aucune chance.
Aucune chance.
Aucune chance.
Okay.
Vu la mentalité, il n'y a aucune chance qu'ils écoutent.
J'ai recollé sur un groupe de 4-5 gars qui montaient. Donc, il était assez tôt. Moi, j'étais parti de nuit. Eux, ils étaient partis d'en bas. Donc, c'était 7-8 heures du matin. Et j'ai recollé un groupe de 4-5 gars. Salut les gars, ça va? Ils sont retournés. J'étais dévisagé intégralement. Donc, eux, ils étaient, comme on dit, en slip sur leur vélo. Rien du tout. Très bien épilé. Tenue de vitesse. Lunettes de vitesse apparentes. Très beau. C'était tous très beau. Et j'ai senti qu'il y a eu un super froid et ça a accéléré tout de suite. Ils ont tout de suite accéléré en disant c'est qui ce gland. Donc, en plus, j'avais mon vélo chargé. Ouais. Et j'ai senti que ça discutait devant et j'ai cru entendre une phrase du style il fait quoi là, avec sa chemise là, et qu'est-ce qu'il nous fait là, il va pas aller loin. Donc, je me suis fait un petit plaisir de rester derrière, ça a accéléré gentiment, et puis quand j'ai entendu cette phrase, ça m'a saoulé, et du coup j'ai un peu fait péter tout le monde, c'était assez cool. Donc moi je mangeais du saucisson sur mon vélo, eux mangeaient des gels, il y a un léger contraste, mais ça m'a saoulé, et ça fait partie des petites réflexions que j'ai eues, mais en tout cas ils sont restés derrière, et ça m'a bien fait plaisir qu'ils restent derrière.
Ouais. Ça fait partie des boulets du vélo et des.
Ouais, malheureusement, on juge beaucoup par l'apparence et le matériel, surtout en vélo. Donc, c'est comme ça.
Ah, dans plein de domaines. Mais pas que. Ah, là, t'es tombé sur du gratiné quand même. Hein.
Ouais, moi, je pense qu'ils s'en souviendront plus que moi et ça me fait plaisir.
je suis pas sûr qu'ils s'en souviennent. Ouais. Je suis pas sûr. Je pense qu'au contraire, ils vont tout faire pour effacer ce moment de leur mémoire.
Ah les gars, il s'est rien passé aujourd'hui. Hein. Vous avez oublié. Ils ont dû se dire personne ne sait ce qui s'est passé.
Alors la sortie Non, mais rien. Rien. Rien du tout.
Voilà. Mais c'est des petites anecdotes sur ma chemise. Enfin, j'en ai quelques-unes, mais souvent j'ai des réflexions. Sur moi, ça me fait rire. En fait, et maintenant, j'aime bien. J'aime bien. C'est cool. En fait, ça me fait plaisir. Ça motive presque. C'est motivant, ouais.
Déjà, si tu trouves une source de motivation en plus, c'est vraiment une super.
Ah ouais, carrément. Ah, moi, j'adore maintenant, j'adore les gens qui font des réflexions. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui trouvent ça cool, qui klaxonnent, qui ouvrent la fenêtre. Ouah, trop bien la chemise et tout. C'est rigolo. Mais c'est assez ces sources de discussion. Alors, ouais, il y a plein de gens qui n'aiment pas. C'est bien pour eux. Et pour moi aussi.
Ouais, je crois que Nathalie Bayon n'est pas hyper fan de ta chemise.
Ah, elle change d'avis des fois.
Ouais, mais en même temps, Nathalie, elle a pas de goût. Quand tu vois comment elle est fringuée, déjà, qu'elle balaye devant sa porte et après on discutera.
Elle va pas te répondre tout de suite. Là, je pense qu'elle est un peu fatiguée, mais peut-être que t'as aura récupéré, peut-être qu'elle te répondra. Ouais, pas hyper fan, mais ouais, je sais pas. Elle a dit que c'était pas top pour aller en soirée, mais que pour rouler, ça passait.
Voilà. Ouais, mais Nathalie, qu'est-ce qu'elle en sait d'aller en soirée? Elle en sait rien de ce que c'est.
Mais elle m'a promis qu'une fois elle viendrait rouler et qu'elle mettrait une chemise, donc on attend la chemise.
Bah, surtout que là on va pouvoir en parler, mais ce qui me fait marrer quand même, c'est que toi t'es à Grenoble, Nathalie est à Grenoble, Laurent Boursette est à Grenoble, ce qui veut dire qu'il y a déjà sur une très jolie petite ville gangrénée par la mafia, et oui on peut le dire, c'est quand même de notoriété publique. Trois excellents rouleurs, et c'est quand même invraisemblable que vous n'ayez pas encore eu l'occasion de rouler ensemble.
Avec Laurent, j'ai jamais roulé, mais avec Nathalie, j'ai roulé déjà.
Un petit peu plus quand même.
Ouais, puis on est un peu en contact, on discute pas mal. Quand j'ai des questions, je lui pose. Ouais. Enfin, on a fait une grosse sortie avant que je parte là. On avait fait Madeleine, Loz, Madeleine. On allait retour. On s'en souvient tous les deux d'ailleurs. La Madeleine au retour, on était bien fracassés. Ça faisait 160 km, 5000 mètres, très beau ratio. Mais ouais, on a roulé ensemble et puis on roulera ensemble, on s'entend bien, on rigole bien. Après, de me comparer aux deux, de me mettre dans le lot des deux-là pour dire trois excellents rouleurs, ça me fait un peu bizarre.
Je chambre Nathalie, mais je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et c'est toujours un plaisir de la croiser. Donc, et Laurent, pareil. Laurent, t'aurais tellement à apprendre de Laurent, c'est une encyclopédie roulante en dépit de son allure bizarre. C'est un monstre à vélo.
Rouler
avec lui.
Je le croise souvent, Laurent, parce qu'en fait, donc, il monte à Saint-Dizier, c'est sa montée et c'est un peu la mienne aussi. J'y suis monté hier, j'y suis monté avant-hier, j'y suis monté tout à l'heure. Là, donc, on est souvent au même endroit, on se croise. Quand il rentre du boulot, moi je descends. Mais ouais, c'est vrai qu'il faudrait que j'aille rouler avec lui.
Et là, de toute façon, il va rentrer du Portugal, donc il sera toujours temps d'aller le voir un petit peu.
Ah, lui aussi, il va falloir qu'il récupère un peu.
Pour lui remonter le moral.
ouais, il a l'air d'avoir vécu une fin de course assez mouvementée.
Ouais.
Mais oui, bon, il y a du monde.
Comment tu t'es senti les jours suivants? Parce que on parle toujours de « t'as fait ci, t'as fait ça, c'est super, c'est machin ». Mais les jours suivants, c'était comment? Le retour à une vie un petit peu plus cadrée, à faire autre chose que rouler, manger à des heures précises, manger des trucs structurés, éventuellement assis avec quelqu'un à faire la conversation, c'était comment?
Ouais, assez particulier le retour. On m'avait prévenu, Jean-Lin m'a beaucoup dit « fais gaffe, le retour, je t'appellerai, mais ça va te faire drôle ». Tiens, merci.
Ça t'a fait tout drôle alors?
Ouais, ça m'a fait tout drôle. Alors, je suis arrivé un soir à 19h. J'avais plein de monde, de la famille, des copains, bu quelques bières. J'ai dormi sur mon canapé parce qu'on avait du monde à la maison. J'ai dormi 4 heures, j'étais les yeux grands ouverts à 6 heures. Bon, qu'est-ce qui se passe? Et après, difficile. Les jours d'après, ça a été, à part que j'ai mangé énormément. Donc, je suis rentré, j'avais pas perdu un gramme, pas pris un gramme. Je pesais avant et après par curiosité. Et en 3 jours, j'avais pris 3 kilos déjà. Enfin, même pas 2 jours et demi, j'avais pris 3 kilos. Donc, je déjeunais une demi-quiche au déjeuner. mais après, la semaine, tout de suite après, ça a été, je travaillais pas. J'avais encore une petite semaine de vacances. Je suis arrivé le mardi, je reprenais le boulot le lundi d'après. Par contre, la semaine d'après, hyper fatigué. Pas du tout physiquement. Les jambes, oh, je vois ton chien derrière. Ah, il est beau.
Hey, Salomon, viens voir.
Ouais, les jambes, physiquement, au niveau des jambes, du corps en général, ça allait. Par contre, une fatigue de ouf. Donc, pas directement après, mais la semaine d'après, quand j'ai repris le boulot, là, obligé, je dormais 8 heures par nuit et obligé de faire la sieste en sortant du boulot, quoi. Grosse fatigue. J'ai pris jusqu'à 5 kilos, 5-6 kilos presque. Et là, j'ai déjà reperdu sans rien changer, en fait. Je pense que le corps, il avait envie de faire de bonnes réserves au cas où je vais remettre une séance de 24 jours, là. Mais grosse fatigue. Après, physiquement, les jambes, ça va. J'ai repris à rouler, là, donc, depuis cette semaine. J'ai fait 2 semaines de repos tranquille. Là, j'ai repris à rouler. Ça a l'air d'aller. Et puis, j'ai pas de douleur particulière. Donc, ça, c'est plutôt cool. Mais fatigue, envie de dormir.
Et maintenant, tu vas faire quoi?
Maintenant, je vais faire quoi? Là maintenant ou dans les jours suivants?
Non, là maintenant, je m'en fiche un peu. Bon, c'est l'automne et tout. En plus, peut-être pas chez toi, mais en tout cas ici, il pleut, donc ça va devenir pénible parfois. Qu'est-ce que tu vas refaire un truc en fin d'année ou pas?
Ouais. On a donc avec les copains avec qui je fais pas mal de trucs là, on avait l'envie d'aller faire la Baridure en Alsace et dans les Vosges. Donc c'est la randonnée de Sophie Maté là, qui aime bien faire des trucs assez costauds. C'est une randonnée ils appellent ça une randonnée d'ailleurs, ça me fait rire à chaque fois. De 600 km, 13 000 mètres de dénivelé, à réaliser en maximum 60 heures. Donc on y va à 4 copains, chacun risque de faire un peu son trip, on va pas forcément faire le truc à 4, je pense pas encore. Ouais. Mais je vais aller faire ça pas trop tard parce que là-haut il fait déjà pas souvent beau, on va essayer de pas y aller trop tard.
C'est où?
C'est vraiment Vosges-Alsace quoi.
Oh.
Et on va sûrement y aller mi-fin octobre, là, quand j'ai le temps. Enfin, moi, il faut que je reroule un peu. On a le temps de préparer ça. Mais le seul truc que j'ai prévu prochainement, c'est ça. Après, on verra l'hiver. L'hiver, je fais moins de vélo, voire pas du tout. Ça dépend des hivers.
Plutôt activité de montagne, je suppose.
Ouais, je suis pas mal montagne. Ouais. Fils d'un guide militaire de haute montagne, je suis pas mal montagne. Je fais pas mal de ski de rando. Je cours aussi l'hiver, et l'été d'ailleurs. Mais j'aime bien varier un peu. Ouais. Donc, je sais pas. Après, peut-être je fais du vélo selon ce que j'ai envie de faire par la suite. Mais rien de fixé.
J'ai quand même envie de revenir sur la deuxième question. J'aimerais bien savoir pourquoi, mais vraiment pourquoi tu es parti faire un tour de France ? Pourquoi tu as voulu partir 24 jours comme ça tout seul ? Parce qu'à t'écouter, on a l'impression que c'était facile, que tu as fait ça aisément, mais j'ai quand même du mal à croire que tu aies fait ça déjà aussi facilement, qu'il n'y ait pas eu de moment vraiment difficile. Et j'aimerais bien savoir pourquoi, vraiment une vraie raison.
Une vraie raison. Ouais.
Parce que le côté je pars 20 jours faire du vélo, 24 jours. Voilà, au bout de 4 jours, tu as vu à peu près ce qu'il y avait à voir. Hein. Y a quand même un côté répétitif assez important. Si les paysages changent, bon, il y a un petit côté répétitif quand même.
Hein. Ouais, après le côté répétitif, on m'a souvent demandé aussi, ouais, tu t'ennuies pas toute la journée et tout. Et j'ai vraiment pas eu d'ennui mentalement. J'étais assez focus sur le truc et ça s'est assez bien passé. Après, la vraie raison, c'est que j'avais envie de me faire un tour de France, et puis que ça me motivait bien, cet objectif-là. De vraies raisons, il n'y en a pas forcément une.
Alors, pourquoi Tour de France ? Parce que tu aurais pu rallier une ville à une autre, traverser 3-4 pays, faire la distance et la difficulté sur une épreuve chronométrée ou n'importe quoi, ou faire un truc un petit peu différent. Quel est l'attrait du Tour de France ? C'était quoi la petite valeur ajoutée de faire le Tour de France plutôt qu'aller t'aligner sur une épreuve, comme la RAF ou d'autres épreuves comme ça. Bon, évidemment, la RAF, c'est moitié la distance, mais...
Pourquoi pas un dossard, enfin, pas une course. Des dossards, j'en ai pris beaucoup en course à pied, en trail, et je suis un peu passé cette période-là. J'avais pas mal envie de me faire des projets perso, j'en ai fait pas mal d'ailleurs. Donc, pourquoi pas la RAF parce que j'avais pas envie de faire une course déjà. C'est un bon truc, alors que c'est quelque chose qui pourrait m'attirer, hein, que je ferais peut-être un jour, je sais pas. Mais... Donc, j'avais envie de faire, de pas faire la course, simplement. Pourquoi la France parce que c'est chez moi. Je me suis pas forcément posé la question, mais j'aime bien découvrir des choses de la maison. Là, je suis parti de chez moi, j'ai fait le Tour de France, je suis rentré chez moi. La symbolique, elle est assez sympa, je trouve. Il y en a qui trouvent sûrement ça bête. je trouve ça assez sympa.
Et sur ton compte Instagram, c'est donc ton pseudo, c'est Antoine Ultra... Je ne sais plus comment.
Balargue.
Voilà, et un balarguiste. Un balarguiste, c'est quoi ?
Un balarguiste, c'est quelqu'un qui se balargue, comme dirait l'autre. Non, la balargue, en fait, c'est un peu notre pseudo de groupe de copains. Se balarguer, c'est un peu se jeter, nous on l'interprète comme ça, mais se jeter et pas se prendre la tête. Voilà, t'as envie de faire le Tour de France à vélo, tu prends tes affaires, tu fais le Tour de France à vélo, et tu te dis pas, est-ce que mon dérailleur c'est le meilleur de la terre, est-ce qu'il faut que je perde 20 grammes sur mon dérailleur, est-ce que on a envie de faire quelque chose, on se jette et puis on voit un peu comment ça se passe. C'est un peu ça l'esprit de notre clique. On aime bien faire
la balarguerie.
Ouais.
Alors justement, si quelqu'un venait te voir, alors tu as un petit peu donné la réponse en te disant « J'aimerais faire le Tour de France, mais je ne sais pas si j'en suis capable, je ne sais pas si j'ai le bon matériel, mon vélo, est-ce qu'il va tenir le choc, et puis si c'est dur, et puis si c'est dangereux ?» Alors qu'est-ce que tu lui réponds ?
Eh ben, essaye, tu verras bien. Ouais, moi, je suis à fond comme ça, J'aime bien regarder le matériel et savoir ce qui existe, mais on peut faire tout avec n'importe quoi. Des fois, faut essayer, faut arrêter de se poser des questions. Les gens, il y en a beaucoup qui font rien parce qu'ils se posent trop de questions, quoi. À un moment, faut arrêter de se poser des questions. Tu montes sur ton vélo, tu pars et puis tu vois. Si tu y vas pas, tu sauras jamais. Hein. Ça te va, Richard, comme réponse à...
Non, mais tu me gaves. Franchement, ce qui me gave, c'est tout, avec toi, c'est que...
Tout est facile.
Non, c'est pas ça. C'est que tu es obligé de me faire citer Mike Horn, alors que ça me gonfle. Je suis complètement insensible à ce qu'il fait. Mais néanmoins, il a une citation où il disait « Quand on part, il faut partir avec 5% de réponse et on trouve les 95% restants en chemin. Et ceux qui veulent 95% de réponse restent à la maison. » Je l'avais déjà balancé en plus celle-là. Mais malgré tout, je trouve que c'est quand même évidemment très juste parce que même si ça ne m'intéresse pas, il est, c'est très costaud ce qu'il fait évidemment. Je suis juste pas sensible à ça, mais du coup, ouais, ça rejoint un petit peu ton esprit de balarguerie. Va et tu verras bien.
Ouais, moi, j'ai une autre punchline de Mike Horn que j'ai un pote qui cite souvent cette phrase. Donc, lui, il dit l'important en survie, c'est de sortir de sa zone de confort. Et c'est une autre de Mike Horn.
alors, tu vois, s'il y a un des trucs que je déteste, c'est tout le storytelling qu'il y a autour de ces aventures. Parce que tu as l'impression que même quand il va chercher le pain, on a frôlé la mort. On était à deux doigts d'y rester. Tu as l'impression qu'avec lui, à chaque fois, c'est la fin et qu'il ne passera pas la nuit. Donc, non, mais ça ne veut rien dire, sortir de sa zone de confort. Ça veut dire quoi? C'est complètement con.
Oui, je suis d'accord. Mais j'aime bien cette phrase.
Même si c'est complètement vrai. Évidemment qu'il faut expérimenter des trucs qu'on n'a jamais fait, manger des trucs qu'on n'a jamais mangé, écouter une musique qu'on ne connaît pas, mal ou mieux, ou mal. Évidemment, mais il faut être un petit peu précis quand même. Et puis trouver une formule un petit peu plus pétante que sortir de sa zone de confort. Ou pire, vouloir briser le plafond de verre.
Ah bon.
Putain, mais vas-y, quoi, fonce, personne ne te retient, il n'y a que toi qui te retiens. Alors vas-y, si tu as envie de le faire, t'y vas. Et arrête avec tes jérémiades.
Bah, largue-toi, quoi.
Bah ouais, bon, du coup, quelqu'un vient te voir en te disant j'ai envie de partir, et tu as envie de le provoquer, de le piquer au vif. Tu lui dis quoi?
Bah largue-toi.
Il ne va pas comprendre. Tout le monde parle pas ton patois de grenoblois.
Mon patois grenoblois. Non, je lui dis vas-y.
Tiens, par exemple, Camille, tu voudrais lui dire, parce que Camille, elle est bien dans cet état d'esprit. Et d'ailleurs, au passage, elle enregistre en ce moment même des témoignages de voyageurs et elle-même est une voyageuse expérimentée. Si elle avait ce genre de truc, tu lui dirais quoi à la petite Camille? Ou la grande Camille, je ne la connais pas. Peut-être qu'elle fait 1m95 et qu'elle me mettrait des quiches à répétition.
Ouais, c'est possible. Ouais. Non, je dirais.
J'espère.
Je lui dirais de se lancer, d'arrêter de réfléchir. Faut réfléchir, mais pas trop longtemps, ça ne sert à rien. Lance-toi. Et puis si le vélo, c'est pas le bon vélo, tu le sauras à un moment. Et puis voilà. Au moins, on apprend, on avance et il n'y a pas d'échec, comme disent les puristes. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. C'est beau, hein. C'est moins Mike Horn, par contre, j'avoue, c'est moins Mike Horn. Mais...
Il y en a une que j'aime beaucoup, mais dont j'ai oublié l'auteur, c'est... je crois que c'est Nelson Mandela. Attends, c'était comment? Bon, j'ai oublié, je vous la retrouverai plus tard. Attends, c'était quoi? C'était un genre de truc, soit je gagne,
ah, mais
c'est
je
super...
Vois.
Ouais, et je ne perds jamais, j'apprends. Un truc comme ça, tu vois. Donc, au bout du compte, l'échec, non, ça n'existe pas. Il y a juste une source d'apprentissage et une opportunité de revenir en étant un petit peu moins ignare, si on peut dire. Bon, Antoine,
Exactement. Tout
ça, c'est génial. On m'a raconté plein de trucs qui plus ou moins intéressants. En tout cas, pour ma part, c'était plus ou moins intéressant et pertinent. Je vais te laisser pour ta minute de solitude, dont tu connais la formule par cœur. Donc, je vais poser mon micro, je vais me diriger par là. Vers l'épisotière. Et voilà, donc tu connais la formule, tu racontes ce que tu as à dire, et quand tu as fini, tu te souviens de ce que je t'ai dit, tu coupes l'enregistrement, enfin tu coupes ta présence dans la
pissotière.
Ouais. Voilà, et toi aussi tu vas à la pissotière, mais tu laisses ton navigateur ouvert.
Ok.
Mon petit Antoine, gros bisous, on se rappelle un de ces quatre.
Allez.
Et merci pour tout.
Allez, ciao Richard.
Et bonjour à Justine, la voisine.
Allez, ce sera fait. Ciao Richard. Alors ça y est, je suis tout seul. Bon, je suis un fidèle auditeur du podcast, mais c'est pas pour autant que j'ai préparé un truc, absolument pas. Avant de dire quelque chose d'autre, je vais remercier Richard, parce que ouais, avant d'être un invité, je suis un fidèle auditeur, donc merci pour tout ce qu'il fait. C'est une bonne source de motivation et puis d'apprentissage, on apprend plein de choses. Super cool. Et larguez-vous, on a bien débattu là-dessus, mais arrêtez tous ceux qui se posent trop de questions, arrêtez de vous poser des questions. Si vous avez envie de vivre vos rêves, vivez-les. Et puis ne posez pas 2000 questions, puisque c'est en partant à l'aventure qu'on a les réponses. Et puis voilà, ceux qui ont des questions sur le Tour de France randonneur ou autre chose, avec plaisir. Et puis voilà. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao.